Grand entretien d'Inter ce matin avec Marion Lourd. Nous recevons un écrivain, un immense lecteur, un très grand professeur de littérature. Il occupe la chaire de littérature comparée au Collège de France. Les auditeurs de France Inter se sont passionnés l'an dernier pour sa traversée d'été avec Don Quichotte, une série que l'on pourra désormais lire à partir de la semaine prochaine avec la publication d'Un été avec Don Quichotte. C'est une publication Équateur, France Inter. Don Quichotte, c'est un livre qui est traversé par des enjeux très contemporains, les mondes virtuels, le complotisme, l'importance des utopies, l'engagement. C'est un livre qui a fait rire l'Europe, un livre qui est considéré comme le premier roman moderne. Bonjour William Marx.
Bonjour Ali Badou.
Et
bonjour.
Bienvenue. Vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 sur ce chef-d'œuvre. Vous pouvez également poser toutes vos questions à William Marx. On va partir de ce qui est le plus simple, chef-d'œuvre inconnu. C'est très paradoxal, Don Quichotte, tout le monde le connaît, le personnage, on connaît l'existence du roman de Cervantes, et pourtant, on ne connaît pas son histoire.
Oh, c'est le principe des chefs-d'œuvre et des classiques. On en a tous entendu parler, mais personne ne les a jamais lus. Et c'est l'objet, justement, d'Un été avec Don Quichotte, d'introduire à cette lecture. Mais alors, qu'est-ce que c'est que Don Quichotte? J'imagine que c'est ça la question. En fait, c'est le roman de la littérature. C'est le roman de la lecture. C'est le roman qui, le premier, met en scène le lecteur tout-puissant, celui qui invente la réalité à partir des livres qu'il lit. Don Quichotte, c'est un roman du tout début du XVIIe siècle, écrit par un auteur espagnol, Cervantes, et ça raconte l'histoire d'un gentilhomme qui est tellement obsédé par les romans de chevalerie qu'il a lus, qu'il va essayer de devenir les héros dont il a lu les aventures. Il devient ce qu'on lit. Voilà, c'est devenir ce qu'on lit. C'est ça l'aventure de ce héros. Il va transformer la réalité à partir de tout ce qu'il a lu.
Pourquoi est-ce que c'est un livre magique, pour reprendre le mot de Borges?
Eh bien, c'est un livre magique parce que c'est un livre qui nous invite à transfigurer la réalité et à mettre en action toutes les puissances de notre imagination, toutes les puissances de notre affabulation. C'est-à-dire à voir derrière la réalité ce qu'elle cache ou au contraire à comprendre que la réalité est autre chose que ce qu'elle est.
Alors William Marx, évidemment, si vous avez choisi Don Quichotte, c'est parce qu'il nous parle, parce qu'il est le roman de la littérature, vous venez de le dire, il y a l'œuvre littéraire dont on va parler longuement, mais c'est aussi parce qu'il fait écho à beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous parle dans Don Quichotte aujourd'hui? Je pense par exemple à une phrase, Don Quichotte a beaucoup lu, trop peut-être, vous le disiez, des romans de chevalerie, il s'est inventé une réalité virtuelle, un monde parallèle, ça nous parle ça aujourd'hui?
Mais, et totalement, c'est-à-dire qu'en fait, chaque époque réinvente sa lecture de Don Quichotte. Au XVIIe siècle, on y voyait une simple farce. À partir du XVIIIe, XIXe siècle, on y voit une sorte de symbole de l'homme tragique.
Et je crois qu'en ce moment. C'est le côté oignon dont vous parlez.
Oui, c'est le côté oignon. En fait, je pense que le propre des chefs-d'œuvre, c'est qu'on les pèle comme des oignons. Et donc, à chaque fois, il y a une couche de sens différente qui apparaît. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, je crois qu'un roman comme Don Quichotte prend une nouvelle actualité. C'est-à-dire que ces mondes virtuels, cette réalité virtuelle dans laquelle vit Don Quichotte, l'exemple le plus flagrant, il est bien connu, c'est l'attaque contre des moulins à vent.
Qu'il prend
pour des géants. Eh bien, donc, c'est comme s'il avait un masque de réalité virtuelle sur lui et qu'il voyait autre chose que de la réalité.
Et en même temps, il n'est pas complètement dupe.
Alors, c'est la grande beauté et c'est le mystère et c'est tout ce qui fait que la profondeur de ce roman, c'est qu'on découvre, au début, on croit que Don Quichotte est en fait un fou, quelqu'un qui se laisse prendre à ses lectures et en fait, on découvre peu à peu que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il n'est pas tout à fait dupe de ses propres illusions. Et de ce point de vue-là, Don Quichotte devient un personnage extrêmement complexe dans lequel le lecteur peut se projeter. Et c'est ce qui fait de cette œuvre une œuvre qui embarque le lecteur dans une aventure dans laquelle il devient lui-même Don Quichotte en vérité.
Pourquoi est-ce que Don Quichotte, William Marx, est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale? Quand on fait des listes, des canons, comme vous l'écriviez dans un article, lorsqu'on fait des listes des grands livres de la littérature mondiale, il y a toujours Don Quichotte.
Oui, ça fait partie des 10 livres les plus traduits dans le monde. Les 10 livres les plus traduits dans le monde. Il est traduit en 140 langues. Enfin, c'est assez incroyable. Et le succès a été européen et mondial dès le départ. Bien, je crois parce que c'est justement le roman qui met en scène la puissance même de la littérature, comme aucun autre roman ne l'a jamais fait. Pour la première fois, quelqu'un, Cervantes, essaie de dire quelle est la puissance même du roman, et il nous fait rentrer dans la puissance de l'imagination. Même.
Et pourtant, il revendique pas complètement la paternité du roman, c'est-à-dire qu'il laisse planer le doute sur est-ce qu'il est l'auteur, est-ce qu'il a traduit un texte, etc. Et puis il écrit aussi, Cervantes, je le cite, il vient d'offrir au public un livre sec comme la paille, pauvre d'intention, dénué de style, médiocre en jeu d'esprit, dépourvu d'érudition et d'enseignement. Pourquoi cette modestie, c'est une pause ?
Mais c'est tout Cervantes et c'est tout l'intérêt du roman. C'est-à-dire que justement, le principe même de ce roman Don Quichotte, c'est de, à la fois d'être le premier roman moderne, comme on vient de le dire, mais d'être le premier roman moderne, parce que c'est aussi le dernier des romans. C'est le premier roman qui dit qu'il est un roman.
Le premier et le dernier.
Le premier et le dernier, à cet égard. Il invente cette manière de construire une histoire, tout en disant que, attention, je ne suis qu'une affabulation, je ne suis que quelqu'un qui raconte une histoire qui a été racontée par quelqu'un d'autre, et en fait, je suis là un personnage de mon roman. Et donc, en fait, on est dans un roman qui invite le lecteur à entrer dans l'ère du soupçon. Cette ère du soupçon qui a été l'ère de tout le roman contemporain. Ben, je pense à Nathalie Sarraute, je pense au nouveau roman. Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui détruit le roman tout en inventant une nouvelle manière de faire le roman.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Don Quichotte sans Chopin, ça?
Alors ça, c'est le génie de Cervantes, qui du reste avait commencé sa carrière comme auteur de théâtre. Au début, il voulait faire un Don Quichotte qui était tout seul, solitaire, qui marchait sur les chemins de la Manche. Et puis au bout de 40 pages, il se dit, non mais je vais lui adjoindre quelqu'un. Et comme ça, c'est ce Sancho Panza qui est un valet de ferme qui devient l'écuyer de ce faux chevalier qu'est Don Quichotte. Et tout l'intérêt du roman va être ces dialogues permanents entre Sancho Panza et Don Quichotte. Et on ne peut pas dire que Sancho Panza est un personnage secondaire. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Et peu à peu, Sancho Panza va prendre une importance et même une profondeur à l'intérieur du roman. Il va devenir beaucoup plus intelligent presque que Don Quichotte, et un personnage aussi dans lequel on peut se projeter. On peut dire que Sancho Panza représente le peuple, en fait, à côté de Don Quichotte. Don Quichotte est celui qui est cultivé, etc. Et Sancho Panza va représenter la puissance même de création populaire à partir du langage, la sagesse populaire. Et c'est un personnage d'une drôlerie incroyable.
Vous dites que c'est le roman de la littérature, et en même temps, à plusieurs reprises, donc il a été rendu fou par les livres, ça vous le dites, vous l'expliquez, et à plusieurs reprises revient l'idée quand même que la littérature et la fiction, c'est ça qui peut nous sauver. Vous dites que c'est le point fixe autour duquel on peut dérouler sa vie avec l'assurance du salut. Il y a plusieurs pages sur ce sujet, on comprend même à la fin, voilà, quand le monde s'écroule autour de vous, quand il n'y a plus de transcendance à laquelle vous raccrochez, Don Quichotte peut encore inspirer tous ceux qui veulent faire de la littérature et de la fiction un point fixe de leur existence. Ça veut dire que Don Quichotte va nous sauver.
Mais je crois que c'est le message, c'est-à-dire qu'en fait nous avons besoin, et Cervantes écrit quand même ce chef-d'œuvre à un moment où tout s'écroule en Europe, c'est-à-dire que la Terre est délogée de sa position centrale dans l'univers par Copernic. Il y a le catholicisme qui est en lutte, enfin qui se divise avec les protestants et les réformés. Donc tout le XVIe siècle. Et donc il y a toutes les illusions sur lesquelles marchait l'Europe s'écroule à ce moment-là. Et Cervantes écrit un roman qui au contraire met en jeu la puissance de l'illusion, qui à la fois dénonce l'illusion. C'est ça le premier objet. Et deuxième chose, dit que l'illusion est indispensable au bout du compte pour vivre. Nous avons tous besoin d'une illusion. Alors, l'illusion, c'est un terme un peu négatif, mais on peut dire aussi employer le terme d'utopie.
Utopie.
L'utopie, c'est l'idéalisme, en fait. Don Quichotte est un idéaliste, c'est un justicier, et il devient un homme extraordinaire, il devient un héros. Lui, l'anti-héros, il a plus de 50 ans, il n'a rien de beau en lui, c'est pas un premier rôle. Et il devient, par la force de l'utopie, par la force de l'idéal, il devient un héros en lequel chacun peut s'identifier.
Il y a de nombreux auditeurs qui veulent vous poser des questions, et on va aller rejoindre au standard dans un instant William Marx, mais vous revenez du Maroc, et avant d'entrer dans ce studio, vous disiez que Don Quichotte, c'est un roman méditerranéen.
C'est le roman méditerranéen par excellence.
Pourquoi, oui?
Alors, d'abord, par l'histoire de son auteur, Cervantes, qui a été prisonnier des geôles d'Alger pendant 5 ans. Et puis, en fait, c'est un roman qui met en scène tous ces rapports, toutes ces relations entre le sud et le nord de la Méditerranée, entre l'Espagne et les Maures, hein, les Arabes ou Berbères, hein, qui sont en Afrique du Nord. Et on voit en particulier, il y a cette implication, on voit apparaître ces personnages des Morisques, c'est-à-dire les Maures, les Arabes ou Berbères, qui étaient en Espagne, qui avaient été convertis de force à catholicisme, mais qui ensuite, en 1609, ont été chassés d'Espagne et se sont réfugiés en France, en Allemagne et aussi, du reste, on s'en retournait au Maghreb et je reviens de Rabat et on voit effectivement ces Mauriques qui ont construit la Casbah des Oudayas à Rabat et le souvenir même de Cervantes est très présent dans tous les livres qui parlent de l'Afrique du Nord parce que c'est vraiment un personnage et un auteur qui a traversé les deux rives de la Méditerranée.
Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Et bienvenue dans le grand entretien d'Inter. Vous aviez une question pour notre invité William Marx.
Oui, tout à fait. Je me suis réintéressé à l'œuvre de Cervantes assez récemment, alors que le premier contact, ça avait été enfant, et je l'avais trouvé ridicule comme personnage, donc je l'avais abandonné. Hein. C'était l'époque où j'idéalisais plutôt les chevaliers. Et que je trouvais qu'il ridiculisait les chevaliers, évidemment, comme Ivanhoé, par exemple. Enfin, bref. Et c'était... Alors aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui, et puis l'époque dans laquelle on est, je me demandais... je trouve que les femmes sont peu représentées dans son son œuvre, ou alors à travers le personnage de la servante là qui rejoint Don Quichotte dans la grange en pleine nuit et en fait il prend ses cheveux, alors il les trouve soyeux alors qu'ils sont comme de la paille, etc. Son vêtement qu'il trouve aussi également très très doux comme de la soie alors que c'est une vulgaire toile de jute. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est.
Bah, question justement, William Marx va vous répondre parce qu'il y a une dimension féministe dans ce roman.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, je pense que l'auditeur a raison. Il y a ce personnage de Marie Thorne, la servante, voilà, qui est un personnage un peu ridicule. Mais il y a d'autres personnages de femmes qui sont là présents. Alors je ne parle pas de Dulcinée qui est une imagination de Don Quichotte, mais il y a des personnages de femmes puissante, hein, pour parler comme Léa Salamé, comme Dorothée, qui est une personnage, qui sont des femmes oppressées, en fait. Des femmes qui ont été violées ou fait l'assaut d'hommes et qui essaient d'échapper au patriarcat. Et en particulier, il y a sous ce discours de cette, jeune Marcel, elle s'appelle, qui veut échapper à un poursuivant, hein, qui veut absolument l'épouser et elle reprend sa liberté, elle se fait bergère et elle tient un discours extrêmement féministe et elle est défendue par Don Quichotte quand elle dit non, mais ce n'est pas parce que vous m'aimez, parce qu'un homme m'aime, que je suis obligé de répondre à cet amour. Et elle tient un discours féministe qui est absolument soutenu par Don Quichotte. Et d'autres personnages de femmes sont là, très présents. Et en fait, les hommes, au bout du compte, sont très ridicules dans ce roman. Et en dehors de Marie Thorne, les femmes qui sont là sont des femmes très fortes et des femmes qui se rebellent contre la société et qui essaient de vivre un idéal féminin, un idéal d'émancipation, et qui est celui du reste qui est défendu par Don Quichotte.
À propos d'idéal, il y a une morale un peu dans cette histoire. William Marx, on a un chevalier généreux, idéaliste qui va secourir les plus faibles. En tout cas, c'est son objectif. Ça ne fonctionne pas toujours, voire parfois jamais, mais il se rend compte parfois qu'il joue au chevalier. La leçon de tout ça, c'est qu'il faut s'engager, même en vain, même quand on se rend compte qu'on est parfois ridicule.
C'est un livre sur l'engagement et sur l'idéalisme. À la fois sur le bonheur de l'idéalisme, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'avoir un objectif de justice, de bonté, et c'est comme ça qu'on peut devenir un héros. Mais c'est aussi un livre sur les dangers de l'idéalisme, c'est-à-dire que l'idéalisme nous amène souvent à transformer la réalité, à ne pas voir ce qu'il y a réellement, et donc on se heurte, en tant qu'idéaliste, souvent aux contraintes même de la réalité.
Et puis l'histoire de ce jeune homme qui essaye de sauver et puis qui voit ses coups de fouet doublés par sa faute, en fait.
Voilà, c'est parfois le premier exploit de Don Quichotte. Il voit quelqu'un qui est battu et c'est quelqu'un qui est battu effectivement injustement par son patron. Et il sauve, effectivement, il croit sauver ce jeune homme, mais il s'en va en pensant « Oh oui, ça y est, j'ai réglé cette affaire ». Et dans son dos, tout d'un suite, le patron reprend de plus belle et manque de faire mourir ce jeune homme. Et donc, en fait, quand on s'engage, il faut aussi pousser jusqu'au bout son engagement, il faut aussi penser aux conséquences de son action. Et c'est ce que peu à peu apprend Don Quichotte, et nous apprend en tout cas.
Et malheureusement, ou en tout cas peut-être heureusement, d'autres restent dans l'ordre de l'utopie, des illusions. Che Guevara, en quittant Cuba après la Révolution, écrit une lettre qui est restée dans les mémoires à Fidel Castro, et il lui dit qu'il va monter sur Rocinante. Rocinante, c'est le nom du cheval de Don Quichotte, comme s'il avait la conscience que l'utopie, l'illusion, l'idéalisme étaient... 20 peut-être.
Les grands, je crois que c'est Bolivar qui sur son lit de mort disait que il y a trois grands héros auxquels il y a le Christ, il y a Don Quichotte, etc. Les grands hommes politiques se sont toujours à un moment confrontés à cette image de Don Quichotte, c'est-à-dire qu'on essaie d'entrer dans une action idéaliste, de changer le monde, et au bout du compte le monde vous rattrape.
Mais nous avons besoin de mythes.
Mais on a besoin de mythes. C'est exactement ce que disait Paul Valéry. Que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existent pas? Que serions-nous sans le le secours de ceux qui n'existent pas. C'est-à-dire que nous avons besoin, pour faire sens de notre existence, nous avons besoin d'immigrés. Alors pour certains c'est la religion, pour certains c'est l'engagement politique, et on peut avoir l'un et l'autre. Mais l'essentiel, c'est on a besoin de ces mythes pour agir, on a besoin de s'identifier à des modèles. C'est aussi ça que nous dit Don Quichotte. On a besoin de, et c'est pour ça que les romans sont très importants, parce que les romans aussi nous donnent une manière de nous engager, de trouver des modèles pour notre vie. Mais il faut aussi être capable de remettre ces modèles à leur place. Et l'ambiguïté de Don Quichotte, c'est ça. C'est-à-dire que on a besoin des mythes, mais en même temps, il faut savoir que ce ne sont que des mythes. Et c'est cette complexité du roman qui le rend si extraordinaire.
Alors, il y a beaucoup de questions sur l'application France Inter, notamment celle de Marie qui demande s'il existe des adaptations pour enfants de Don Quichotte.
Énormément, en fait, beaucoup de traductions. Il y a beaucoup de textes, de versions pour enfants. Et malheureusement, enfin, je trouve que Don Quichotte, c'est un livre formidable à lire pour dans l'enfance. C'est comme disait l'auditeur tout à l'heure, on peut avoir une première lecture comme enfance, on y voit une simple farce. Mais en vérité, je crois qu'on en découvre tout le sel et toute la profondeur que lorsqu'on est véritablement adulte. Hein. Et donc, je crois que c'est un livre pour tous les âges, vraiment.
Intervention de Geoffrey sur l'application France Inter. Parler de Don Quichotte alors que le Moulin Rouge a perdu ses ailes hier, c'est cocasse. Il y a quelques interventions dans ce sens-là, ça vous fait sourire?
Mais oui, c'est vrai, c'est un peu la fin d'un mythe, là, on a l'impression, avec le Moulin Rouge. Mais le fait est que nous sommes ici dans le monde des images. Et donc, voilà, il faut savoir que les images ne sont que des images et qu'elles sont parfois sujettes à la mortalité également.
Il y a un mystère. Est-ce que Cervantes a rencontré Shakespeare? C'est l'un des mythes justement qui entoure la vie de ces deux personnages. Et c'est assez curieux, nous sommes au mois d'avril. Le 23 avril, c'est le jour de la mort de Shakespeare. La veille, le 22 avril, c'est la mort de Cervantes.
Oui, oui. C'est vrai, mais c'est une
coïncidence troublante, mais vous insistez là-dessus parce que c'est comme s'il y avait une sorte de hasard objectif.
Exactement. En fait, il y a une sorte de coïncidence entre les deux dates des morts des deux plus grands, le plus grand écrivain de littérature espagnole et le plus grand écrivain de la littérature anglaise.
En 1616.
Cervantes, Shakespeare. Donc, en 1616, il meurt à quelques jours de distance. Cervantes est enterré le jour même de la mort de Shakespeare. Et en fait, les historiens de la littérature, c'est l'un des grands mystères, se demandent s'ils ne se seraient pas croisés. Parce que, en 1605, il y avait des grandes fêtes à Valladolid, où l'ambassadeur...
C'est là qu'habitait Cervantes.
Voilà, Cervantes habitait à ce moment-là à Valladolid. Et l'ambassadeur d'Angleterre arrive à Valladolid, peut-être accompagné de Shakespeare. Oui. Et il y avait du reste, à ce moment-là, le première partie de Don Quichotte était déjà paru. Il y avait déjà des spectacles burlesques, des mascarades, où il apparaissait déjà le personnage de Don Quichotte et de Cervantes. En tout cas, ce qu'on sait... Peut-être se sont-ils rencontrés, on ne le sait pas, mais ce dont on est sûr, c'est que Shakespeare a lu Don Quichotte. Et il a écrit une pièce qui était inspirée d'un des épisodes de Don Quichotte, Cardenio, pièce qui est malheureusement perdue. Et ce qui est assez fascinant dans cette histoire, vous parliez de hasard objectif, ou la manière des surréalistes, mais c'est vrai que cette coïncidence entre ces deux grands personnages, grands héros des littératures, en fait nous dit quelque chose de la littérature européenne qui se construit à ce moment-là. Oui. Et donc ce sont ces deux grands... monstres, au bout du compte, des littératures européennes, nous disent quelque chose d'un rapport à la fiction, à la littérature, et cette date du 23 avril est déjà du reste une... Elle a été prise par l'Union européenne comme une date de la Journée mondiale de la lecture.
Et vous lancez un appel à l'UNESCO.
Mais oui, je crois qu'il faut
en faire.
Mais il faut en faire une journée de l'Europe, de la littérature européenne. Et du reste, les Français peuvent se mettre dedans, puisque en fait, c'est en France que le succès de Don Quichotte s'est fait en très grande partie. C'est là qu'il y a eu le plus de traductions dès le départ.
Parlons d'Europe justement, puisque vous êtes aussi un grand spécialiste de Paul Valéry, que vous citez d'ailleurs à propos des mythes dans votre livre Un été avec Don Quichotte. Paul Valéry qui a été cité hier par oui. le président de la République, par Emmanuel Macron. Il commence même son discours avec ça. Il dit « Nous devons être lucides aujourd'hui sur le fait que notre Europe est mortelle ». Est-ce qu'on peut faire des parallèles entre l'Europe de Paul Valéry et la nôtre?
Ah ben, l'Europe de Paul Valéry, c'est en 1919 que Paul Valéry dit que nous autres civilisations nous sommes mortelles, et il pense à l'Europe. On sort de la Première Guerre mondiale et on est dans un monde où les peuples européens, les nations européennes sont en lutte, en fait, les unes contre les autres. Alors, aujourd'hui, d'autres enjeux sont là. C'est-à-dire que, effectivement, Paul Valéry parle aussi de l'émergence des autres mondes autour de l'Europe, et on voit bien avec la Chine, l'Amérique, et puis l'Afrique aussi, qui est là, et que nous devons exister aussi en tant que continent, et en relation avec ces continents. Et je crois que l'importance, on parlions des mythes ici. L'Europe, c'est pas seulement un mythe d'origine, parce que je pense que les mythes d'origine doivent toujours être dépassés. Mais c'est un mythe à venir. Et c'est ça l'avantage des mythes. C'est ça, les mythes sont des idéaux, des buts que nous avons devant nous et des utopies que nous avons à construire. Et Valéry n'a cessé toute sa vie durant de vouloir construire cette Europe de l'esprit, cette Europe d'union entre les intellectuels, par l'esprit, par les avancées de la recherche, de la science, de la littérature.
Est-ce qu'elle est encore juste comme objectif? Parce que hier, dans le discours du président, on entend l'économie, on entend la défense, on n'entend pas beaucoup l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, vous en appelez, vous, à l'Europe de l'esprit?
Mais c'est absolument fondamental. Et si je publie aujourd'hui, cet été, avec Don Quichotte, c'est justement pour dire que on ne peut pas penser la littérature européenne, et pas non plus la littérature mondiale, sans une œuvre étrangère qui est ce chef-d'œuvre de la littérature espagnole et européenne et mondiale, qui est Don Quichotte, et que en fait nous sommes traversés par un ensemble de cultures, de langues étrangères, de littératures étrangères qui nous construisent et qui peuvent continuer à nous faire penser.
Donc si on met des sous-titres à ce que vous dites, William Marx, le président de la République, a fait une comparaison, et comparaison n'est pas raison avec Valéry, puisque Valéry écrit que l'Europe et les civilisations sont mortelles à un moment dramatique et tragique de l'histoire, le président de la République à un autre moment qui est peut-être moins dévasté, moins dévastateur.
Mais je pense que ce que disait aussi Valéry, c'est qu'il fallait faire vivre un idéal européen. Et donc il ne faut pas seulement se dire... L'Europe ne doit pas être seulement, comment dire, une sorte de recours contre un danger qui nous menace. Il faut aussi voir l'Europe de manière positive, au bout du compte, comme quelque chose que nous pouvons faire advenir, et du reste la construction européenne, hein, depuis tant de décennies, se fait selon des modèles qui n'existent nulle part ailleurs. Alors certains disent mais alors c'est un problème, parce que ça n'existe nulle part. Mais justement, c'est parce que ça n'existe nulle part ailleurs que nous devons le faire. Parce que c'est cette union entre des nations qui déplaît tant aux nationalistes, avec quelque chose qui est une entité politique qui permet de rassembler toutes ces pensées, toutes ces politiques, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs et qui peut nous faire avancer vers un autre horizon. Et c'est justement l'inexistence qui nous amène à l'existence.
On retourne au standard. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour.
Merci.
Je vous appelais, je voulais savoir si pour William Marx, la littérature devait rester de l'art pour l'art, comme l'était un petit peu le nouveau roman, ou si au contraire, elle devait être engagée pour nous apprendre des choses sur les luttes politiques en cours dans le monde.
Merci pour votre question.
Ben, je pense qu'elle peut faire les deux. C'est-à-dire oui. on peut lire des œuvres littéraires qui sont là pour développer la forme pure et la beauté, etc. Et c'est magnifique. On a besoin aussi de ces moments-là. Et puis il y a des œuvres littéraires et actuellement elles sont là de plus en plus présentes, des œuvres engagées, des œuvres d'autofiction. On parlait du livre d'Edouard Louis, Monique Seva à l'instant. Et donc qui essaie de s'engager dans le monde, de parler des violences du monde. Et je crois que
vous parlez même de lutte des classes à propos de Don Quichotte.
Ah mais c'est vrai qu'elle est déjà présente à l'intérieur de Don Quichotte, effectivement. Sancho Panza revendique d'être payé et il demande à Don Quichotte, mais est-ce que les écuyers des chevaliers étaient payés comme des maçons? Est-ce que vous allez me payer à la journée ou au mois? Donc, effectivement, le réalisme, Don Quichotte est un roman hyper réaliste. C'est un roman sur l'idéalisme, mais c'est un roman, en fait, qui s'inscrit dans les réalités du temps. Et Cervantes dénonce, en fait, tout ce qui est laissé de côté par l'ensemble des romans habituels, c'est-à-dire à la fois, est-ce que les écuyers sont payés? Est-ce que les héros font leurs besoins naturels, hein, c'est aussi une question.
C'est
et donc le rôle,
question.
Le rôle de la, mais c'est une vraie question. C'est à la fois très drôle et aussi très important. C'est-à-dire que le rôle de la littérature, c'est de phagocyter le réel, en fait, de faire du réel une matière littéraire. Et beaucoup de choses échappent à la littérature. Et les écrivains, les écrivaines sont là aussi pour faire entrer dans les œuvres des choses qui jusque-là n'avaient pas droit de citer.
Il nous reste très peu de temps. William Marx, on file au standard. Catherine, vous posez une question qui est partagée par de très nombreux auditeurs.
Oui. Catherine ? Allô Catherine ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui, vous êtes en direct.
On vous entend parfaitement.
Oui. Très bien, je trouve passionnant ce que dit votre invité, je le remercie et je vous remercie d'ailleurs au passage. Je voulais lui demander, puisqu'il existe beaucoup de traductions de l'épopée de Don Quichotte, s'il avait envie d'en recommander une particulière, d'expliquer un petit peu pourquoi.
Merci.
Alors écoutez, les trois traductions qui sont présentes, soit en folio ou au livre de poche et au seuil, qui sont présentes sur le marché, sont toutes excellentes. Personnellement, j'ai utilisé pour les émissions En été avec Don Quichotte et pour le livre, la traduction d'Aline Schulman au seuil, parce que c'est sans doute celle qui est la plus directement lisible pour quelqu'un qui ne connaît rien aux langues anciennes. Et donc, c'est celle que je recommanderais pour une première lecture, en tout cas. Voilà.
Merci infiniment, William Marx. Il y a Merci. Cette phrase où vous parlez de Don Quichotte et où vous dites que c'est devenu une évidence, ce roman, un monument littéraire aussi irréfutable que le sont pour l'architecture le Parthénon et les pyramides d'Égypte ou la Joconde en peinture. Et cette évidence, ça n'est qu'un mirage rétrospectif. Don Quichotte aurait pu ne jamais exister. Et ça, c'est une vérité sur laquelle aimait insister Paul Valéry.
Oui.
Merci infiniment d'avoir été l'invité de France Inter. Un été avec Don Quichotte, c'est donc publié aux éditions Équateur en partenariat avec France Inter. On le recommande chaleureusement. Bonne journée.
Merci à vous.